Merci Seigneur pour ces moments. Je vous invite à ouvrir vos Bibles sans plus tarder dans l'évangile de Matthieu et au chapitre 27. Matthieu, chapitre 27. Lorsque je me suis placé devant Dieu pour savoir quoi vous dire cet après-midi, quelque chose s'est imposé à mon cœur et on pourrait donner un peu un titre à ce partage. Ce titre serait « Ce qu'est la croix ». Ce qu'est la croix. Et nous allons lire une partie du récit de la crucifixion de Jésus. Et on pourrait le lire la tête basse, désespéré, plein de pitié pour cet homme, Jésus-Christ. Mais en fait, j'aimerais vous dire vraiment que c'est une bonne nouvelle pour nous. C'est une très très bonne nouvelle. On va le voir ensemble. Donc Matthieu chapitre 27 et au verset 27. Quelquefois, je sauterai quelques versets, je vous les indiquerai, pour ne pas prendre trop de temps. Les soldats du gouverneur conduisirent Jésus dans le prétoire et ils s'assemblèrent autour de lui toute la cohorte. Ils lui ôtèrent ses vêtements et le couvrirent d'un manteau écarlate. Ils tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête et ils lui mirent un roseau dans la main droite. Puis, s'agenouillant devant lui, ils le raillaient en disant « Salut, roi des Juifs !» Et ils crachaient contre lui, prenaient le roseau et frappaient sur sa tête. Après s'être ainsi moqué de lui, ils lui ôtèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. Verset 35. Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré au sort ma tunique. Puis ils s'assirent et le gardèrent. Verset 44. Les brigands crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. Depuis la sixième heure jusqu'à la neuvième, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la neuvième heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Élie, Élie, lama sabachthani » C'est-à-dire, « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Verset 50. Jésus poussa de nouveau un cri, un grand cri, et rendit l'esprit. Amen. Amen. On vient de lire le récit du moment le plus important de toute l'histoire de l'humanité. Le moment où Jésus donnait sa vie sur le bois de la croix. Jésus a été crucifié. Et comme je l'ai dit auparavant, juste avant, on ne pourrait se plaindre sur cet homme. Oh là là, qu'est-ce qu'il a souffert, le pauvre, etc. Qu'est-ce qu'il a fait, etc. J'aimerais vous dire que c'est une bonne nouvelle pour nous. Et on va voir ce qu'il a fait vraiment. J'aimerais parler de la croix cet après-midi. Qu'est-ce que la croix? Beaucoup de personnes dans le monde ne savent pas ce que c'est. Quand on parle de la croix, ils disent « c'est un mythe ». C'est un mythe. Quand on parle de la croix, ils disent « oh, c'est ce symbole, ce signe-là qui rassemble un peu les chrétiens. C'est un signe entre eux pour se reconnaître. » La croix, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est pour vous? Qu'est-ce que c'est pour moi, la croix? Et qu'est-ce que c'est dans la parole, la croix? On va voir trois choses. J'aimerais voir trois choses avec vous cet après-midi. C'est que la croix, c'est d'abord un message. Deuxièmement, la croix, c'est une œuvre. Et troisièmement, j'aimerais qu'on regarde la croix comme une bannière. Comme une bannière. La croix, un message. Dieu avait un message à transmettre à l'humanité. Dieu avait quelque chose à nous dire à chacun de nous. Et il a fait en sorte que la croix soit un message. Quel message? Tiens, est-ce que ça vous intéresse de savoir que le ciel vous a adressé un message, personnellement? Pour dire le ciel, mais moi je n'y ai jamais fait cas. Qu'est-ce que c'est que cette affaire? Le ciel m'a adressé un message. Vous avez un email, hein, vous avez un texto, etc. Ding! Cet après-midi, la trompette sonne. Vous avez un message de la part de Dieu, de la part du ciel. Le ciel pense à vous. Tiens, c'est intéressant. Ce message, il est tout simple. C'est Dieu qui vous l'envoie et il vous dit simplement, au travers de la croix, « Je t'aime. Je t'aime. » Pourquoi la croix? Parce que Dieu nous aime. La première chose que je voudrais retenir cet après-midi par rapport à la croix, c'est que vraiment, Dieu a donné son Fils Jésus sur la croix parce qu'il nous aimait. On le lit ensemble? On va le lire dans Jean chapitre 3, à partir du verset 14. Vous pourriez être surpris de dire, mais moi, je n'aime pas Dieu. Lui-même, vous êtes sûr qu'il m'aime, mais moi, il ne m'intéresse pas. Pour l'instant, il ne m'a jamais intéressé, je ne vois pas pourquoi. Vous êtes sûr qu'il m'aime? Eh bien, regardez ce que nous dit Jésus de la part de Dieu. Verset 14. « Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Et j'ai choisi de lire à partir du verset 14, parce qu'il est dit que Jésus devait être élevé. Jésus s'est fait appeler le Fils de l'homme et il dit « Le Fils de l'homme doit être élevé. » Il a annoncé sa mort, comme quoi il était bien au courant qu'il allait donner sa vie pour vous, pour moi. Jésus savait ce qu'il faisait. Ce n'est pas un hasard si Jésus est monté sur le bois de la croix. C'est vraiment Dieu qui veut dire à l'homme, qui veut nous dire cet après-midi, « Je t'aime. Tu as de la valeur pour moi. Ta vie est importante à mes yeux. Je pose mes regards sur toi cet après-midi encore. Je t'aime, mon ami. » Qu'importe ta situation, qu'importe si tu es riche, si tu es pauvre, si tu es grand, petit, gros, maigre, peu importe. Jésus, Dieu, t'aime. Et c'est pour ça qu'il a envoyé son Fils. Dans 1 Jean, au chapitre 4 et verset 9, je vais vous le lire si vous préférez vous concentrer. 1 Jean, chapitre 4 et verset 9. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Et là, on embraye sur le deuxième point. La croix, c'est un message, Dieu nous aime, mais c'est aussi une œuvre. Dieu a accompli une œuvre par la croix. Jésus a accompli une œuvre. Et ce mot bien compliqué, expiation. Il a compris l'expiation. Qu'est-ce que c'est? Ça demande explication cet après-midi. Explication de ce mot. Sur la croix, Jésus a fait l'expiation de nos péchés. Dans un dictionnaire, j'ai pris un dictionnaire pour vous et j'ai trouvé ceci. L'expiation est une souffrance imposée ou acceptée à la suite d'une faute et considérée comme un remède ou une purification. Qu'est-ce que c'est? Jésus qui fait l'expiation pour nos péchés, c'est qu'il supporte une souffrance. Lui, il l'a accepté, il l'a voulu, il l'a fait de lui-même, c'est pas forcé. Pourquoi? Eh bien, pour nous donner un remède au péché, pour nous donner un remède à l'enfer, pour nous donner un remède à la misère du monde, à l'égoïsme, à toutes sortes de choses qui envahissent le monde et qu'on pourrait remarquer. Des choses qui détruisent notre monde, qui détruisent peut-être votre vie, l'adultère. Peut-être quelqu'un vous a trompé. Moi, je connais beaucoup de personnes, de jeunes filles, de jeunes hommes. Je parle beaucoup avec de jeunes de mon âge, tout ça, mais même au lycée, au collège, beaucoup de jeunes hommes, de jeunes filles qui disaient « Moi, écoute, maintenant, je m'amuse. J'ai une fille aujourd'hui, demain, j'en aurai peut-être une autre, peu importe, je ne m'attache plus. » Et quand on pose la question « Mais pourquoi ?» Parce que j'ai été trahi. Des jeunes filles qui faisaient n'importe quoi, qui faisaient la bringue, pourquoi ? Mais parce que j'ai été trahi. Moi, j'étais fou amoureuse de cet homme, de ce jeune homme, et il m'a trahi, il m'a trompé. Il a été violent avec moi. Alors qu'on est resté des années ensemble, il a fini par me dire « De toute façon, je t'ai jamais aimé. » Toutes ces choses, c'est des choses que Dieu n'approuve pas, qui attristent le cœur de Dieu et qui emmènent l'homme dans le mal de plus en plus. Et le mal emmène l'homme de plus en plus dans les ténèbres. Et si on ne se délivre pas, si on n'est pas délivré de nos ténèbres sur la terre, on va aller dans les ténèbres pour l'éternité. Et ça s'appelle l'enfer. Et Jésus a fait une œuvre de salut pour le monde. Dans expiation, il y a trois synonymes, trois mots qui sont rattachés à ce mot expiation dans la définition, c'est rachat, c'est réparation et punition. Trois mots, comme un peu synonymes. Et c'est exactement ce que Jésus a fait, rachat. Comme un esclave, le péché me menait en enfer. J'étais esclave du péché. Vous avez déjà essayé d'arrêter de mentir? Tiens, le lendemain vous recommencez. Vous avez déjà essayé d'arrêter de dire des gros mots? Le lendemain, vous recommencez à être vulgaire. Et puis, etc. On pourrait faire une grande liste. Le péché nous colle à la peau et il nous emmène en enfer. Mais Jésus a payé le prix dans le marché de ce monde pour nous racheter. Vous savez, ce matin, il nous était redonné cette image. Avant, il y avait l'esclavage, autrefois. Et sur les marchés, il n'y avait pas, comme le disait notre pasteur, il n'y avait pas que des poulets, des canards, des navets, etc. Il n'y avait pas que ça. Il y avait aussi des hommes et des femmes qui étaient vendus. Soit parce qu'ils avaient une dette, soit parce que des circonstances de la vie étaient là. Les hommes, des femmes étaient vendus. Jésus lui-même a été vendu par Judas pour prix d'un esclave femme, méprisé. Et Jésus, lui, il a pris le prix, il a payé le prix sur le bois de la croix. Il a porté les conséquences de nos péchés pour les réparer. Il a racheté nos vies, Nous étions esclaves du péché qui nous emmenait en enfer. Jésus a payé le prix pour nous racheter. Nous avions brisé la relation. Le péché nous dit que, la Bible nous dit que ça nous sépare de Dieu. C'est comme un mur qui nous sépare de Dieu. Et tant que l'affaire du péché n'est pas réglée, on est séparé de Dieu. Dieu a fait l'homme pour avoir une relation avec lui. Vous savez que c'est Dieu qui nous a créés ? C'est pas le hasard. C'est pas le Big Bang qui nous a créés. Et s'il a plu à Dieu de faire un Big Bang pour créer le monde, eh bien, c'est lui qui a fait l'étincelle. Mais il y avait bien quelque chose. Peu importe comment il l'a fait. La Bible nous dit que Dieu créa le ciel et la terre et qu'il créa aussi l'homme, la femme. Si vous êtes là, ce n'est pas un hasard. C'est parce que Dieu vous aime. Il vous voulait sur la terre. Mais pas pour une vie de misère, pas pour être esclave du péché, mais pour nous racheter. Et Dieu voulait avoir une intimité, une relation avec l'homme. Et elle a été brisée à cause du péché. Et Jésus a réparé ce que le péché avait brisé. Il a réconcilié, la Bible nous dit, l'homme, la femme, avec Dieu. Il nous a réconciliés avec son Père. Et aujourd'hui, on peut avoir à nouveau une relation avec Dieu. Beaucoup de religions nous proposent d'apaiser Dieu par des sacrifices, par des offrandes, par des efforts, par toutes sortes de choses. Mais Dieu lui-même, dans sa parole, Jésus lui-même a dit non. Ce n'est pas vos efforts qui vont réparer ce qui a été brisé à cause du péché. Ce n'est pas vos sous que vous allez investir dans un endroit, des indulgences, toutes sortes de choses comme ça. Ce n'est pas non plus vos efforts, ce n'est pas votre argent, ce n'est pas toutes sortes d'œuvres qu'on pourrait faire ou de sacrifices qu'on pourrait rajouter. Il y en a un qui s'est offert en sacrifice, c'est Jésus, pour réparer ce qui avait été cassé. Et la punition, la Bible nous dit que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, dans Ésaïe. Puisque le péché déplaît à Dieu. Lui qui est saint, lui qui est pur, lorsqu'il regarde la souillure, il détourne d'ailleurs son regard. Il ne peut pas laisser son regard sur de la souillure. Et il y a comme une colère qui monte en lui. Et je suis obligé de vous parler de la colère de Dieu un peu aussi. Je ne veux pas vous effrayer, je ne veux pas vous dire Dieu est un père fouettard. Au contraire, puisqu'il savait que sa colère devrait tomber sur le monde, il a dit il faut absolument que je fasse un plan de secours. Un plan B, comme diraient certains. Un plan de secours. Et il a accompli ce plan en Jésus. Il a accompli. La croix, c'est la mise en œuvre du plan de salut de Dieu en faveur de tous les hommes parce que Dieu aime les hommes. Il y a un quatrième mot qui est rajouté dans la définition. J'ai dit, mais bien fait mon dictionnaire. Un quatrième mot, vous savez quel mot ? À côté expiation, il y a rachat, réparation, punition et ils ont mis repentance. Mais ils sont chrétiens, ceux-là. Ils ont lu la Bible. Repentance. Et pour que l'expiation de nos péchés soit parfaite, soit aboutie, soit effective pour chacun de nous, il nous faut une toute petite part. Jésus a fait la plus grande part. Il a tout accompli. La part de Dieu est faite. Mais il nous reste une petite part à faire. C'est nous repentir. Qu'est-ce que c'est ? Repentir, c'est changer de mentalité. Autrefois, je vivais pour me faire plaisir. Je pensais qu'à moi. Mon prochain, tant pis pour lui. Dieu, tant pis, je m'intéresse pas à lui, il fait sa vie, moi je fais la mienne. S'il y a un Dieu, ben tiens, comment ça se fait que j'ai des soucis? Comment ça se fait qu'il y a de la violence dans le monde, etc. J'aimerais vous dire, s'il y a toutes ces choses, c'est parce qu'on ne veut pas de Dieu. Alors arrêtez, approchez-vous de lui. La seule part qui reste à l'homme, c'est la repentance. Reconnaître son état de pécheur. Tous, il n'y a pas besoin de beaucoup d'instants. En rentrant à soi-même, on remarque tous qu'on n'est pas parfait. Qu'on ne mérite pas le ciel. On a tous failli quelque part. Mais il y en a un qui n'a jamais failli pour pouvoir s'offrir pour vous, pour moi, pour nous ouvrir le ciel. C'est ça le plan de salut. Oui, Dieu est en colère contre le péché, mais il aime le pécheur et il veut qu'il se détourne de son péché pour le sauver. La seule petite part qui nous reste, c'est la repentance. Et pour la repentance, pas besoin de souffrir. Jésus a souffert. Pas besoin de rajouter de la pénitence, de la souffrance, de se faire violence à soi. Des gens, on le voit, des gens, ils font des erreurs, ils commettent des erreurs. Tiens, ils tombent dans la pornographie, ils tombent dans des choses qu'ils ont en horreur. Et puis ils sont là pendant, ils disent, allez, j'en ai pour 3 mois, dans 3 mois, Dieu m'aura pardonné. Et pendant 3 mois, ils vont faire deuil. Mais Jésus est ressuscité, il est vivant. S'il est mort à la croix, Dieu nous dit qu'il l'a ressuscité parce que lui, il était parfait. Et que si toi, tu méritais la mort, si tu méritais l'enfer, si je méritais l'enfer, Jésus a tout fait. Il a accompli une œuvre parfaite à la croix pour que nous ne mourions jamais. Bien sûr, physiquement, on va passer par la mort, mais spirituellement, on va aller au ciel. Et la mort dont parle Dieu et celle qu'on doit craindre, c'est l'enfer. C'est cette séparation d'avec Dieu. Pour la repentance, pas besoin de souffrir. Pour la repentance, il y a juste besoin de s'humilier devant Dieu. C'est la seule chose qu'il y a à faire. Dire oui, c'est vrai, je suis peut-être meilleur qu'un autre à mes yeux, mais à tes yeux, je suis sale, souillé. J'ai une tache quelque part. Je vous pose une question. Si vous aviez une belle chemise de soie, magnifique, d'une marque qui vaut très très cher, vous voyez, quelque chose auquel vous prenez bien soin, elle a de la valeur pour vous. Et si jamais dessus, il y avait la moitié qui était propre et juste une autre moitié avec des taches, est-ce qu'on pourrait dire « elle est propre » ? Non. Bon, maintenant, on va enlever un peu parce que là, je vais fort. Mais s'il y avait juste un quart de sale sur la chemise, est-ce qu'elle est propre ? Non. S'il y avait une toute petite tache sur la chemise, est-ce qu'elle est propre ? Non. Dieu regarde les hommes comme ça. Il dit que t'es une grosse tache, t'es une petite tache à tes yeux. Pour moi, c'est pareil. Il faut que cette tache soit ôtée. Et le seul moyen de l'ôter, c'est Jésus qui l'a fait. C'est Jésus qui l'a donné le moyen. Il a dit, repens-toi. Moi, j'ai fait l'autre part. Toi, il te reste juste à t'humilier devant moi. Et dans les livres des Proverbes, verset 29, chapitre 29, verset 23, on va le lire, tiens. Proverbes, au milieu de la Bible à peu près, Proverbes, chapitre 29 et verset 23. Un petit verset. L'orgueil d'un homme l'abaisse, mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. Amen. Et moi, la gloire que je veux, ce n'est pas celle de la terre. Il y en a, ils feront tout pour avoir de la gloire sur la terre. Des stars, ils vont travailler leur talent de chanson, de musicien, de ce qu'on veut. Ils vont bosser dur, dur, dur pour avoir le meilleur talent, être une personnalité dans ce monde et avoir de la gloire terrestre. Mais là, il n'est pas parlé de la gloire terrestre. Vous avez vu, il est dit humble d'esprit. Humble d'esprit. Vous n'avez pas besoin de bûcher votre talent. Vous n'avez pas besoin de travailler, de faire des efforts. Il suffit d'être humble d'esprit. Reconnaître dans votre esprit votre état de pécheur. Oui, j'ai peut-être qu'une petite tache à mes yeux, mais j'ai une tache quand même. Et Seigneur, je te demande pardon. Je ne mérite pas le ciel qui est pur, qui est saint. Ta présence, elle est sainte, Seigneur. Tu es pur. Dans ta présence, il ne peut rien rentrer de souillé. Alors, Seigneur, je viens vers toi. Je m'humilie, je te demande pardon pour mes péchés. Viens me laver. Ton sang a coulé sur la croix et tu dis que ton sang peut me laver. Alors, eh bien, que ton sang coule sur moi. Je crois dans la croix. Je crois en toi. Amen. L'œuvre de la croix. Le message, l'œuvre de la croix. Et on va appuyer tout ça avec un dernier point. La croix, une bannière. Une bannière. Dans Exode 17, 15, il est dit ceci. L'Éternel, ma bannière. C'est Moïse qui dit ça. Moïse va faire une expérience extraordinaire avec Dieu. Il y a des ennemis qui se montent contre lui, etc. Et lui va faire une chose, il va lever les bras aux cieux. Compter sur le Seigneur. Et puis, je passe les détails, en bas il y a la guerre qui se passe, il y a Josué par exemple qui défend le pays, qui combat, etc. Et Moïse il est juste là, il compte sur le Seigneur et il lève les bras. Et la victoire est remportée. Pourtant, ils sont moins nombreux. Pourtant, ils sont moins équipés, ils sont moins forts. Et ils gagnent quand même. Et alors, il va y avoir comme un cri, quelque chose, une volonté dans son cœur. Il va sortir ça de sa bouche. L'Éternel, ma bannière. Il va faire un autel et il donne ce nom, un nom à cet autel. L'Éternel, ma bannière. Amen. Dans Isaïe, Jésus lui-même est comparé à une bannière. Il est dit qu'un jour Jésus reviendra et qu'il va s'élever, le rejeton d'Isaïe va se lever et qu'il sera une bannière pour le monde entier. Jésus est comparé à une bannière. Qu'est-ce que c'est qu'une bannière ? Il y a besoin d'expliquer des choses, moi le premier. Dans le dictionnaire, toujours pareil, il est dit que c'est un signe de ralliement pour tous les hommes qui appartiennent à une même justice supérieure. C'est important, c'est... Moi, je ne l'aurais jamais dit comme ça. Je l'aurais dit, c'est un petit drapeau. Et là, on a un sens vraiment important. C'est le signe de ralliement. C'est un endroit où on peut aller dessous, se soumettre, se mettre sous une bannière. Ceux qui viennent avec une bannière comme ça, eh bien, ils viennent au nom d'une justice supérieure, de quelqu'un qui est au-dessus d'eux, qui les a envoyés. Jésus est la bannière. Jésus est une bannière. Il est celui qui nous présente, qui nous parle du Père, de Dieu. Qui nous ouvre un accès auprès de Dieu, auprès du Père. Je veux aller plus vite. Deux choses dans une bannière. Il y a la perche, et il y a ce qu'on pourrait appeler le drapeau, l'étendard, le fanion. on l'appelle comme on veut, un bout de tissu comme ça, avec un dessin, avec un symbole dessus. Et quand, lors d'une guerre, on voyait toute une armée comme ça, on regardait un peu, et puis on pouvait reconnaître des bannières, des bâtons levés comme ça, avec un drapeau dessus et un symbole, une image. Et toutes les bannières d'une même armée avaient la même image. Et ça voulait dire quelque chose d'extraordinaire. On va le voir juste après, je vous laisse un peu. Qu'est-ce qui est le plus important pour vous, maintenant qu'on vient d'expliquer? Ce drapeau qui parle d'une autorité derrière. On vient dans le nom de quelqu'un. Qu'est-ce qui est le plus important, le bâton ou le drapeau? Qu'est-ce que vous en pensez? Le drapeau. Pourquoi? Parce que tous les bâtons sont faits à peu près pareil. C'est pas au bâton qu'on reconnaît qui est là. Mais c'est au drapeau qui est là, à la bannière en elle-même, au fanion, à l'étendard qui est là. C'est lui qui nous indique qui est là. Et beaucoup de personnes sont rentrées dans une superstition. Ils ont un petit pendentif en forme de croix. Et ils s'attachent en fait au bâton, à la croix. La croix est une bannière, vous vous souvenez ce que j'ai dit? La croix est une bannière. Jésus a été mis sur ce bois. C'est qui le plus important, c'est Jésus ou le bois? Et des gens, ils se sont dit, oh, la croix, la croix. Et là, non, il n'y a pas de croix, justement. Mais si, elle est là, j'ai retrouvé. Mais vous voyez, est-ce que cette croix-là va faire que cette chair est bénie? Pas du tout. Si j'ai un pendentif en forme de croix, est-ce que Jésus est avec moi tant que je l'ai? Et si je la perds, aïe, 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 Dieu a disparu, il n'est plus là. Est-ce que c'est ça? Pas du tout. Et beaucoup de personnes, ils serrent une croix dans leurs mains et ils font leur prière comme ça en serrant fort. Et plus ils serrent fort, plus la prière va être exaucée, vous voyez? Non, faut pas tomber dans une superstition. Quand on parle de la croix, il y a un message derrière, très très important. Et ce n'est pas le fait de voir une croix en croisement d'un chemin qui va faire « Ah oh, tiens, là, ma route est bénie. » Et puis tous les 100 mètres, on va mettre une croix pour que notre route soit bénie. C'est pas ça. C'est bien, à la limite, ça nous rappelle le message derrière. Mais si on ne connaît pas vraiment l'œuvre de Jésus derrière, si on ne sait pas qui a été mis sur cette croix, à quoi ça sert? Alors ne soyons pas superstitieux, mais approchons-nous du drapeau, approchons-nous de l'étendard, approchons-nous de Jésus. Le plus important, c'est pas la perche, mais c'est Jésus. C'est pas de quel bois, dans quel arbre ça a été taillé, etc. C'est dans Jésus lui-même. C'est celui qui a été accroché à la croix qui est très très important pour nous encore cet après-midi. C'est par Jésus que nous vient le secours de Dieu. C'est par Jésus que nous vient la grâce de Dieu. C'est son nom, le nom de Jésus, qui est puissant dans ma vie, lorsque je l'invoque pour me sauver, lorsque je l'invoque pour me secourir, pour me pardonner mes péchés. Et si vous êtes tombé dans une superstition, on ne va pas vous culpabiliser. Vous avez compris aujourd'hui que l'important, ce n'était pas ce petit pendentif, ce n'était pas cette prière faite comme on vous l'a appris par cœur, ce n'est pas toutes ces choses, ces rituels, mais c'est la personne elle-même de Jésus. C'est lui le Sauveur, c'est lui le Roi, c'est lui le Seigneur. Une bannière a été élevée. Vous avez vu, tout à l'heure, on a lu, hein, on a dit, il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Il faut, et il a été. Qu'est-ce que ça veut dire quand une bannière est élevée? Je vais vous le dire maintenant. Ça veut dire que toute l'armée, que toutes les ressources, que toute la probation, que toute la logistique d'un pays ou d'un roi qui aurait envoyé cette armée sous laquelle se tient cette bannière, toutes les ressources du pays ou du roi sont avec cette armée et la soutiendront jusqu'à ce qu'il y ait victoire. Une bannière, quand on voyait la bannière d'un pays, ça veut dire que tout le pays est d'accord avec ce qui se passe et s'investit pour ce qui se passe. On se souviendra de la Seconde Guerre mondiale, il y avait les gens au front, mais il y avait généralement les femmes derrière qui ont commencé pour la première fois à travailler. Certaines. D'ailleurs, ce qui a fait qu'elles ont eu le droit de vote après. Parce qu'elles ont dit, mais nous, on a travaillé derrière, vous étiez peut-être devant, mais on a notre part dans la guerre. Et il y a toujours des gens derrière. Et moi, j'aime penser à ce que Jésus a fait sur la croix. Il a donné sa vie. Il est lui-même cet étendard, celui qui nous parle de Dieu, celui qui nous fait connaître Dieu, celui qui nous donne accès à Dieu, le seul intermédiaire, d'ailleurs il nous est dit. Aucun saint, aucune personne, aucun pasteur, aucune église, aucun mur, rien ne peut nous approcher de Dieu si ce n'est Jésus-Christ son Fils. On n'a pas accès à cause de notre péché. Et si on veut avoir accès à Dieu, il faut que notre péché soit réglé. Et c'est Jésus qui l'a fait. Et Jésus, mourant sur la croix, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que tous les anges du ciel... Ça veut dire que Dieu lui-même, le Père, ça veut dire que le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, Ça veut dire que toute la volonté de Dieu est là derrière Jésus, le soutenant, étant avec lui. Et même si à un moment Jésus peut dire « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» c'est simplement parce que Jésus devait payer pour nos péchés. Mais Dieu ne l'a pas abandonné dans le séjour des morts, il l'a fait ressusciter parce que lui pouvait sortir du séjour des morts. Il n'avait jamais péché. Et derrière, Dieu est avec lui. Jésus pouvait dire « il y a une légende, si je veux, ils viennent tous m'aider. » Et tout le monde est par terre. Moi, je descends, je délivre. Mais il faut, et je veux, parce que je vous aime, mourir à la croix pour vous, donner ma vie. En conclusion, je dirais ceci. Si tu viens t'enrôler, t'engager sous l'autorité de Jésus, toute l'approbation de Dieu est derrière toi. Quand quelqu'un se donne à Christ, Dieu est d'accord. Dieu approuve ce geste. Si quelqu'un s'approche d'une voyante, si quelqu'un s'approche d'un pasteur, même d'une église particulière, d'une dénomination, ou de quoi que ce soit d'autre que Jésus, ou qui que ce soit d'autre que Jésus, Dieu n'est pas derrière. Mais si tu viens t'enrôler sous l'autorité de Jésus, si tu viens à Jésus, dire « moi je veux me soumettre à toi, toi tu as fait ça pour moi, eh bien maintenant je veux donner ma vie pour toi, à toi, je ne la mérite pas ma vie de toute façon. Tu l'as sauvée, je me suis repenti devant toi, maintenant je m'enrôle sous ton autorité. » Tu m'as racheté de l'esclavage de ce monde, bien maintenant je veux devenir ton serviteur volontaire. Volontaire. Toute l'approbation de Dieu, toutes les promesses de la Bible, tous les anges du ciel, toute la grâce de Dieu sont avec nous, seront avec nous, seront avec toi et pour toi tout au long de ta vie. À moins que, durant ta vie, tu renonces à cet engagement. Tu renonces à ce choix que tu auras fait ou tu dévies de la route qu'il te montrera. Mais sinon, tu peux être certain que si tu crois en Jésus, qu'il est le Fils de Dieu, qu'il s'est donné par amour pour toi, qu'il a expié tes péchés sur la croix et qu'il est ressuscité, alors tu deviens enfant de Dieu et Dieu prend soin de ses enfants. C'est une chose certaine. Si vous croyez en Jésus et en l'œuvre de Jésus à la croix, si vous croyez en l'efficacité de son sang qui a coulé à la croix, alors vous pouvez devenir enfant de Dieu en vous repentant simplement et dire « Seigneur, je te donne ma vie » et avoir l'assurance que Dieu prendra soin de vous. Il utilisera les anges pour vous protéger. C'est écrit. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui l'aiment et de ceux qui le craignent. Dieu veillera sur vous. Il utilisera les anges. Il utilisera son Esprit Saint pour vous parler. Il vous révélera la parole de Dieu pour que vous la compreniez au mieux et que vous marchiez dans la lumière, un chemin de lumière. Mais attention, s'enrôler sur la croix, c'est un engagement. Et je ne veux pas vous dire, c'est un long tapis rouge, tout va aller bien, vous inquiétez pas, jamais d'épreuve. Il y en a un, vous allez en faire votre ennemi, c'est le diable. Vous allez lui dire, moi je ne veux plus me saouler. Vous allez lui dire, moi je ne veux plus me droguer. Moi je ne veux plus mentir. Moi je ne veux plus faire ce que je faisais avant. Je vivais orgueilleux, égoïste, et bien maintenant je change d'avis, je change de mentalité. Je veux la mentalité de Jésus. Je veux vivre pour Jésus, parce qu'il a vécu pour moi, il est même mort, jusque mort pour moi. Maintenant, mon maître, c'est Jésus, c'est plus toi. Alors, il va y avoir un combat. Mais comme Moïse qui a compté sur Dieu, la victoire va être là. C'est certain, Dieu l'a promis. Et Dieu n'est pas un homme pour mentir, la Bible nous dit. Alors, s'enrôler sous la croix, c'est un engagement à renoncer à notre ancienne vie, à renoncer au péché. C'est un engagement à haïr ce que Dieu est, à aimer ce que Dieu aime. Ça nous fait réfléchir à nous qui avons fait déjà cette démarche. Est-ce que je hais ce que Dieu hait? Est-ce que j'aime ce que Dieu aime? Est-ce que j'utilise ma vie pour ça maintenant qu'elle est sauvée? Est-ce que c'est là mon but? Oui, s'engager, s'enrôler sous la croix, ça demande des efforts. Ça va demander des efforts après. Ça va demander, eh bien, des sacrifices, de dire, allez, je regardais de la pornographie avant, ça y est, je ne regarde plus. Je sais que ça souille mon âme et je ne veux pas être souillé parce que je veux que Jésus habite dans mon cœur. Il a dit ça. Celui qui m'accepte, je viendrai habiter en lui, faire ma demeure chez lui, et je mangerai, je souperai avec lui. Et si vous voulez qu'il rentre en vous, il va falloir faire le ménage. Et lui, il va vous aider à le faire. Il va le faire même. Parce que le péché, c'est un peu comme les ténèbres. Et le seul moyen de faire fuir les ténèbres, c'est d'allumer la lumière. Et Jésus, c'est la lumière. Quand il rentre dans un cœur, il balaye tous les ténèbres. Amen. Oui, ça coûte, c'est un engagement, mais ça vaut la peine. Parce que Dieu offre le ciel. Dieu donne le ciel. Dieu promet le ciel à tous ceux qui s'engagent sous la bannière de la croix, sous la bannière de Jésus. Amen. Le voulez-vous? Le voulez-vous cet après-midi? Amen. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions d'avoir choisi de nous sauver. Après nous avoir créés, nous avoir tout donné, avoir fait une terre magnifique, avec des couleurs, des animaux, toutes sortes de belles choses, nous t'avons renié, nous t'avons méprisé, on n'a fait de toi aucun cas. Tu as tout fait pour nous et nous, nous vivons égoïstement pour nos intérêts. Nous plongeons dans le péché alors que nous savons que ça te déplaît. Tu as choisi, Seigneur, de nous sauver, de nous pardonner et tu l'as fait en Jésus-Christ. Que ton nom soit béni, Jésus, pour ce que tu as fait sur cette terre, ce beau message de la croix, cette œuvre de la croix, cette bannière sous laquelle tu nous invites à te suivre et à nous enrôler. Nous voulons t'aimer plus que tout, Dieu. Nous voulons recevoir toutes tes promesses, tes bénédictions. Et pour tous cet après-midi, je te demande cela. Que personne ne se prive de la grâce d'être pardonné de ses péchés. Au moins ça, Seigneur. Que tous réalisent qu'il y a une opportunité cet après-midi de faire la paix avec toi. De se voir être racheté à la carrière de ce monde. Racheté, nous qui sommes esclaves, d'être libres en toi. Nous qui avons brisé une relation avec toi à cause de notre péché, tu es venu restaurer. Et c'est possible encore cet après-midi d'être réconcilié avec toi. Nous qui méritions la punition, tu l'as portée sur nous. Seigneur, qu'on ne supporte pas encore une punition qui a déjà été payée. Aide-nous à comprendre ce qui se passe réellement cet après-midi. Tu es là, Seigneur. Ton esprit est là. Travaille nos cœurs. Aide-nous à nous approcher de toi. Révèle-toi au milieu de nous. Amen.